Vous êtes bien sur RFI et je vous en remercie. 3 heures en temps universel, 4 heures à Paris.
Mathis Limano.
À la une, la justice française confirme le non-lieu dans l'enquête pour inaction. Inaction reprochée à l'armée française par les rescapés Tutsi Rwanda, notamment ceux des massacres de Bicécéro. Les soldats français avaient mis 3 jours à réagir, mais des milliers de Tutsi avaient déjà été tués. Toutes les confessions seront respectées en Syrie, rassure le nouveau Premier ministre nommé après la chute de Bachar el-Assad. Il a aussi appelé les Syriens exilés à rentrer, reconstruire le pays, la Syrie, toujours pilonnée par Israël qui veut détruire ses capacités militaires. Dans ce journal, on s'intéresse également aux forces américaines présentes dans le pays. Et puis, aux États-Unis, justement, le chef du FBI démissionne avant même l'investiture de Donald Trump. On débute cette édition avec une déception, celle des rescapés des massacres de Bicécéro, du nom de cette chaîne de collines à l'ouest du Rwanda où plus de 60 000 Tutsis furent massacrés en 1994. La Cour d'appel de Paris a confirmé ce mercredi le non-lieu général dans l'enquête sur l'inaction reprochée à l'armée française alors déployée dans le cadre de l'opération turquoise. RFI Kigali, Lucie Mouillot.
C'est une déception pour Eric Dzabihimana, partie civile du dossier. Rescapé de Bicécéro, l'ancien instituteur fait partie de ceux qui ont averti un convoi de l'opération turquoise des massacres sur les collines dès le 27 juin 1994. Mais les militaires n'interviennent que 3 jours plus tard. Aujourd'hui, le survivant se dit résigné.
J'ai pas été surpris par la décision de la justice française. Ça fait longtemps qu'ils ignorent la vérité qu'ils connaissent. Ça me fait mal au cœur. Si la conclusion d'Audicler disant que la France a commis des erreurs graves dans le génocide et qu'on ne veut même pas continuer à poursuivre les coupables, c'est déplorable.
Un premier non-lieu général prononcé en 2022 avait été annulé pour des raisons de procédure liées à la publication du rapport de l'historien Vincent Duclerc notant l'échec profond de la France à Bicécéro. Philibert Gakwenziré, président de l'association du rescapé Ibuka.
Pour nous, nous condamnons déjà le rôle qui a été joué par ces hommes, mais nous ne devons pas laisser à cette condamnation d'ordre historique. Normalement, il devait paraître devant la justice par rapport à ce que les actes ignobles qu'ils ont commis.
Les avocats de plusieurs organisations parties civiles ont déjà annoncé qu'un pourvoi en cassation était possible. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
5 heures passées de 2 minutes à Kigali, 6h02 à Damas, la capitale syrienne, où la vie normale reprend peu à peu, notamment avec la réouverture des commerces. Mais dans d'autres régions du pays, la guerre continue de faire rage. De nouveaux bombardements israéliens sur des sites militaires à Latakié, le port de la ville côtière également visé, alors qu'au nord, malgré la trêve entre forces pro-kurdes et pro-turques dans des combats qui ont fait plus de 200 victimes en quelques jours, l'aviation turque continue de frapper des positions pro-kurdes. Restées plutôt discret jusque-là, plusieurs centaines de soldats américains sont stationnés en Syrie et en Irak. Leur déploiement s'inscrit dans le cadre d'une coalition internationale anti-djihadiste créée pour combattre le groupe État islamique, à l'époque où ce dernier contrôlait des pans entiers de territoire dans les deux pays. La présence américaine la plus importante en territoire syrien se situe à Al-Tanf, dans l'est du pays, Franck Alexandre.
Al-Tanf, c'est une base perdue dans l'immensité du désert syrien, mais sa position est stratégique. Elle est située à quelques encablures de la frontière irakienne et à quelques kilomètres de la frontière jordanienne. C'est un avant-poste idéalement positionné le long de la route reliant Bagdad à Damas, principal axe est-ouest de toute la région. Depuis 2016, la garnison américaine d'Al-Tanf sert à la fois de socle pour lancer des opérations contre le groupe État islamique et de camp de formation pour les factions de l'opposition syrienne combattant le groupe djihadiste. La base facilite également les attaques aériennes israéliennes contre des cibles situées à l'extrême nord de la Syrie, des attaques qui, en raison d'une trop longue distance, ne peuvent être menées depuis le plateau du Golan. Al-Tanf a donc toujours été un caillou dans la chaussure de Damas, une emprise inestimable pour toute opération spéciale.
Franck Alexandre a noté dans ce contexte régional de très fortes tensions que l'Assemblée générale de l'ONU réclame un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza, une résolution symbolique soutenue par une très large majorité de pays mais rejetée par Israël et les États-Unis. Un texte similaire avait été bloqué par un veto américain fin novembre au Conseil de sécurité. La Maison-Blanche qui envoie son chef de la diplomatie au Moyen-Orient, 12e et dernier déplacement pour Anthony Blinken qui s'est envolé pour la Jordanie avant de rejoindre Ankara vendredi. Au programme des discussions, la Syrie, mais aussi Gaza. Derniers efforts en vue d'une trêve avant le changement d'administration en janvier. J'ajoute qu'au Liban, les forces israéliennes ont procédé à un premier retrait d'une localité dans le sud. Ils ont été remplacés par des militaires libanais, comme le prévoit l'accord de cessez-le-feu. L'État hébreu a encore une quarantaine de jours pour retirer l'ensemble de ses troupes.
RFI.
La transition politique aux États-Unis, elle continue et s'accélère. L'actuel directeur du FBI, pourtant nommé par Donald Trump lors de son premier mandat, annonce qu'il va démissionner de ses fonctions avant le 20 janvier, date d'investiture de Donald Trump. À Washington, les précisions de Guillaume Nodin.
En principe, Christopher Wray avait été nommé en 2017 pour un mandat de 10 ans, un mandat censé dépasser les aléas de la vie politique. Dans les faits, c'est rarement le cas. D'ailleurs, le patron sortant de la police fédérale avait lui-même été nommé après que son prédécesseur avait été viré par Donald Trump pour sa gestion de l'enquête sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016. La position de Christopher Wray était devenue difficilement tenable parce que Donald Trump avait déjà nommé son successeur, Kash Patel, un fidèle d'entre les fidèles de la maison Trump. Kash Patel a annoncé la couleur, il veut faire le ménage au FBI et poursuivre ceux qu'il considère comme les ennemis politiques de Donald Trump. Dans sa réaction postée sur son réseau social personnel, le président élu parle d'un grand jour pour l'Amérique. Il reproche notamment la perquisition de son domicile de Mar-a-Lago dans le cadre de l'enquête sur les documents classifiés emportés après son premier départ de la Maison-Blanche. Il dénonce une instrumentalisation des moyens de la justice contre lui et il estime que Kash Patel est le meilleur candidat pour ramener la justice, la loi et l'ordre dans le pays. Guillaume Nodin, Washington. RFI.
En Corée du Sud, Yoon Suk-yeol accuse l'opposition de provoquer une crise nationale et assure qu'il se battra jusqu'à la dernière minute. Déclaration du président sud-coréen une semaine après sa tentative d'imposer la loi martiale. Il a depuis échappé à une motion de destitution, mais un deuxième vote initié par l'opposition doit avoir lieu samedi. Et ce nouveau rebondissement en Corée du Sud, la police affirme avoir été empêchée ce mercredi de perquisitionner les bureaux du président. Les policiers se sont heurtés au refus des services de sécurité. Toujours dans la région, Taïwan dit avoir encore repéré des navires de guerre chinois aux alentours. Taipei en dénombre 16 dans ce qui se présente comme un important déploiement militaire chinois depuis plusieurs jours et la tournée dans le Pacifique qui n'a pas plu à Pékin du président taïwanais. Nouvelle opération pour le président brésilien. À peine sorti du bloc pour une hémorragie à l'intérieur du crâne, Lula va subir un complément d'opération jeudi. Le chef de l'État demeure en soins intensifs, mais il a passé une bonne journée et a reçu la visite de membres de sa famille, a voulu rassurer l'hôpital de Sao Paulo. Et puis, 50 ans après leur séparation, ils demeurent une icône de la culture britannique, les Beatles. Ce jeudi, la maison de vente aux enchères britannique Dawson's propose des lots d'objets en lien avec le groupe. Le plus convoité, un lot de documents qui met l'éclairage sur les coulisses de la fin des Beatles. Emeline Vin a pu les consulter pour nous.
C'est une liasse de documents oubliés au fond d'un tiroir qui raconte l'affrontement judiciaire entre Paul McCartney et le reste des Beatles au sujet de la direction du groupe. Denise Kelly, responsable divertissement de la maison d'enchères Dawson's.
Nous avons l'acte original de partenariat et surtout les minutes des réunions entre les représentants légaux, les comptables et les représentants des Beatles qui mettent en lumière les conversations en coulisses.
Prix estimé des 300 pages, 6 à 10 000 euros. Pour Denise Kelly, c'est clair, les Beatles ne pouvaient plus continuer ensemble au début des années 70.
C'était trop tendu et les documents le montrent, ils étaient tous passés à autre chose. Ils en avaient assez les uns des autres, professionnellement et personnellement. Mais c'est triste de voir quatre amis, quatre frères en arriver à ça.
Les documents suscitent beaucoup d'intérêt du monde entier.
Certains de ces éléments sont inédits. Pour tout fan des Beatles ou même de l'histoire de la musique, c'est une période unique dans l'histoire. C'était bien sympathique de mettre les Beatles ensemble. C'était autre chose de les séparer. Et cela montre que leurs managers n'ont pas fait leur travail.
Plus abordable, Dawson's met aussi en vente des photos et des vinyles signés par les Fab Four. Emeline Van Londres, RFI.
Voilà, les Beatles pour refermer ce journal. 3h10 à Londres, 1h de plus à Paris. Tout de suite, c'est le grand reportage sur RFI. Et dans 30 minutes, c'est le premier RFI Afrique. Merci à vous d'avoir suivi ce journal.